surtout dans le domaine éducatif et sanitaire. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 18h de Rome. Bon après-midi à tous.
Présence à Montrégio, 94.1.
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Suivez ce rendez-vous sur Radio Présence. Interview, reportage, retransmission en direct. Radio Présence vous fait vivre ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Dans les Hautes-Pyrénées, le Comminges, le Gers, le Béarn, vous écoutez le Tout Info Local. Tout Info Local.
Bon après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Avant de faire un point sur l'actualité locale, un point météo cet après-midi. Nuages légers, éclaircies se partagent le ciel avec une baisse des températures. On ne va pas dépasser les 8 à 9 degrés à Tarbes-et-Lourdes, 7 degrés à Saint-Gaudens, 9 degrés à Auch. Demain vendredi, des pluies éparses se produiront. Ciel qui restera dans l'ensemble maussade. 12 à 13 degrés pour les températures maximales. Mot du week-end samedi, pluie le matin, puis éclaircie dans l'après-midi. Et pour dimanche, alternance de pluie et d'éclaircie. Voilà, et dernière prévision de Météo France. Allez, très bel après-midi avec le journal local et Luc Vidal-Giraud.
Radio Présence, le tout info local.
L'éducation nationale vient de publier son palmarès 2016 des lycées dans les Hautes-Pyrénées. C'est le lycée Peyramale Saint-Joseph de Lourdes qui arrive en première position avec 98% de réussite au bac. Viennent ensuite les lycées René Billère d'Argelès-Gazost, Notre-Dame de Garaison, la Serre de Sarsan à Lourdes, Théophile Gauthier à Tarbes. On trouve ensuite le lycée Jeanne d'Arc de Tarbes en 6e position devant Prado-la-Cède. Dans les Pyrénées-Atlantiques et plus spécialement en Béarn et en Soule, c'est le lycée Bartou de Pau qui pointe en tête. Il devance les lycées Saint-Cric, Saint-Jean-Perse, tous les deux à Pau. Viennent ensuite le lycée Jacques Monod à Lescar, le lycée Gaston Phébus à Orthez et le lycée Paul Rey à Naï. C'est le 13 avril prochain que le conseil communautaire de la grande agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées votera son budget. On sait d'ores et déjà qu'en matière de fiscalité, toutes les communes de l'agglo devront s'aligner sur le taux moyen intercommunal. Certaines d'entre elles vont donc y gagner, et celles dont le taux était supérieur, d'autres y perdront, celles dont le taux était inférieur. On fête aujourd'hui un anniversaire, celui des 50 ans de la création du Parc National des Pyrénées. C'est en effet le 23 mars 1967 que le parc fut créé par décret. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet anniversaire dans une émission spéciale dans quelques semaines en direct du siège du Parc National des Pyrénées, Villafould, à Tarbes. C'est aujourd'hui que le maire de Toulouse lance une pétition en ligne à l'adresse des candidats à la présidentielle pour défendre l'arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse à Matabiau. Cette pétition a pour vocation d'interpeller les candidats pour qu'ils affirment leur volonté de concrétiser cette ligne à grande vitesse dans le respect du calendrier et qu'ils s'engagent surtout sur son financement. L'arrivée de cette LGV à Toulouse était initialement programmée pour 2024, mais elle ne semble plus faire partie des priorités et de la SNCF et de l'État. La pétition est accessible sur le site www.tgv-toulouse.fr, www.tgv-toulouse.fr. La ministre du Travail, Myriam Emil Khomri, et celui de la ville, Patrick Kanner, sont dans la ville rose aujourd'hui. Ils doivent inaugurer l'établissement régional pour l'insertion dans l'emploi, l'EPID. Cet établissement s'adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de l'emploi et âgés de 18 à 25 ans. En intégrant un de ces centres, les jeunes pourront se concentrer sur leur projet d'insertion sociale et professionnelle, et ce pour une durée d'environ 8 mois en internat. La première promotion comptera 60 jeunes. À terme, le centre disposera de 50 places. À la suite des chutes de neige de la nuit dernière, les équipements étaient obligatoires ce matin pour rejoindre les domaines de Lamongie et de Saint-Lary, mais également le col d'Aspin dans le 64. Les chaînes sont aussi indispensables pour accéder à la Pierre Saint-Martin et au col du Pourtalet.
Présence à Mirande, 104.2.
Les visages de l'église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Père Jean-Jacques Barrère.
Bonjour Jean-Covid.
On termine.
Les auditeurs.
Voilà, vous avez raison, il ne faut pas oublier les auditeurs. On termine aujourd'hui notre petite série d'émissions en votre compagnie, Père Jean-Jacques Barrère. Je rappelle que vous êtes prêtre du Prado et coopérateur dans l'ensemble paroissial de Gallan. Vous venez nous parler de l'avenir des territoires ruraux, un sujet qui vous tient à cœur, un sujet sur lequel. Pour lequel vous avez publié un ouvrage qu'on décortique avec vous depuis le début de la semaine. Le sous-titre de votre livre, L'avenir des territoires ruraux, vous notez « Des chrétiens s'interrogent ». À quoi ça sert que des chrétiens s'interrogent sur ces questions-là ?
Si les chrétiens sont dans le monde, si Jésus est venu dans le monde... C'est pas simplement pour regarder le monde tourner ou attendre les événements. Mmh. Il a pris quelques initiatives, il a posé en tous les cas un certain nombre de questions à travers sa vie, à travers ce qu'il était. Donc, si les chrétiens qui sont aujourd'hui sur les territoires ruraux ne s'interrogent pas, ne posent pas des questions, n'ouvre pas des chemins, vous voyez. Le père Théobald, qui nous a fait la...
Théologien, qui vous a fait quelques... Oui.
Parle beaucoup de personnes en relation significative.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les personnes en relation significative, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une pratique de vie, qui les rend crédibles, quoi. Qui les rend crédibles aux yeux des autres. Mm-hmm. Ils ne travaillent pas rien que pour leur enrichissement personnel. Ils savent tendre la main et... Ils vivent des solidarités quand il faut. Et ils savent accueillir aussi.
Et les chrétiens sont appelés à ça ?
Les chrétiens sont appelés à porter des signes comme ça, oui, je crois, moi. Alors, à partir de quoi ? Si les chrétiens ne portent plus de signes, évidemment, le monde va où il peut, mais comment l'évangile peut-il... Peut-il être vécu, peut-il être annoncé, peut-il être compris ? Alors il me semble que les signes apportés ne sont peut-être pas ce qu'on voudrait porter. Peut-être qu'il faut laisser faire Dieu, mais encore faut-il le laisser faire, justement. Je crois qu'au Prado, nous avons cette contemplation de Jésus dans l'Évangile, ça commence par là, méditer. D'ailleurs, les trois portes sont précisées là-dessus, méditer. Regardez le monde, regardez ce qui se passe, mais méditez d'abord, s'imprégner de Jésus, méditez, et puis décidez d'une pratique, décidez d'une prise de position, décidez. Jésus vivait sur un petit territoire, il n'a pas fait quand même le tour du monde. Hein. Alors, dans ce petit territoire, les gens qu'il rencontre, il en rencontre pas mal, mais enfin, il y en a certains, du moins, auxquels il peut dire... Il lui pose des questions auxquelles il dit quelque chose. C'est souvent des gens marqués par la vie, handicapés, malades, ou bien des personnes qui se sentent un peu comme zachés, quoi, qui sont culpabilisés quand même.
Qui se sentent un peu en marge.
Oui.
Ce que vous voulez dire, c'est que ces personnes-là, il faut les responsabiliser. C'est ça que vous voulez dire ?
Je crois. Responsabiliser, et puis peut-être aussi entendre leurs questions. Ils veulent voir, ils voient pas.
Oui, mais est-ce qu'ils savent vraiment à qui poser leurs questions ? Est-ce que ces gens-là ne souffrent pas avant tout de solitude, voire peut-être parfois de mépris ?
Je crois, oui. Donc peut-être le premier travail à faire, c'est ne pas laisser les gens dans la solitude, c'est ne pas les laisser dans le mépris, même le mépris d'eux-mêmes. C'est fraterniser avec eux. On parle là-dedans des petits cailloux blancs de l'espérance dans l'Apocalypse. Mmh. Et ça, c'est très important. Poser des gestes et des signes de fraternité aujourd'hui. Hein. Moi, je pense, par exemple, qu'après une célébration, même si on n'est pas nombreux, si on a été heureux et si on est heureux, c'est le plus important. Hein. Je disais à une petite, une fille qui devait avoir 8 ou 9 ans, en apéro, était venue pour la messe à cause de sa grand-mère. Alors elle m'a dit tout d'un coup, je veux te parler. Parle-moi, oui, si tu veux. Et elle m'a dit, toi qui sais parler à Jésus, tu pourrais pas lui parler un peu de ma grand-mère et de moi ? Alors je dis à la petite, mais écoute, toi aussi tu peux parler à Jésus. Mais oui, mais papa, maman veulent pas que j'aille au catéchisme. Ben écoute, ça, papa, maman, ils t'aiment sans doute, mais toi ça t'empêche pas de parler à Jésus. Et alors je vais lui parler de quoi, moi, Jésus, et de qui ? Mais parle-lui de moi. Moi, je lui parlerai de toi. Et comme ça, on avance. Je veux dire par là que cette petite, elle se posait certainement une question. Quoi. Mm-hmm. Elle posait une question, elle avait entendu à l'homélie qu'on pouvait parler à Jésus. Et elle se disait, mais si je pouvais lui parler.
Mm-hmm. Non, notre évêque, Mgr Brouvet, nous relaie souvent le message, l'invitation du pape d'aller aux périphéries, ouais. D'être des missionnaires. Ouais. Est-ce que là, c'est pas un... Est-ce que ces territoires ruraux sont aussi des périphéries ?
Oui,
c'est une terre de mission.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est des périphéries. Ben, c'est peut-être des gens qui ont une pratique religieuse ou une religion,
mais oui.
Qui, par rapport à leur foi, peut-être sont dans des périphéries aussi. Hein. Mm-hmm. On a tous nos propres périphéries. Mais après, il y a des gens qui débarquent, évidemment, qui ont besoin d'entendre ou de voir. Hein. Alors c'est peut-être des signes qu'il faut porter, mais moi je crois que le signe de la fraternité, le signe de l'écoute est un premier signe, et si on donne aux gens la possibilité de parcourir l'évangile, ils pourront peut-être redécouvrir tout ça. Moi je crois que c'est ça le plus important. Alors comment développer sur le rural des lieux d'évangile, ça c'est une question importante quoi. Les lieux de célébration aussi. Les gens, par exemple, aujourd'hui, chez nous, ne mordent pas du tout au sacrement de la réconciliation. N'y croient pas, je sais pas pourquoi, il y aura un passif. Mais est-ce qu'il faut commencer par là ? Je peux pas les en vouloir, parce que c'est pas de leur faute, peut-être, hein, s'ils n'y croient pas, mais on peut leur dire. Mais c'est pas parce qu'on leur dit qu'ils vont changer de pratique. Mais
on voit bien aussi, du coup, comment... L'histoire de l'Église, dans des coins comme ça, très précis, est marquée par le vécu, l'histoire des gens, l'histoire des familles. C'est quand
même assez fort. Moi, je crois, si vous voulez, que de s'imprégner un peu de l'Évangile, regarder comment fait Jésus, ça nous libère de nos inquiétudes, ça nous libère en même temps de nos... on voudrait aller trop vite, on voudrait aller vite. Là, il insiste surtout... Le père Théobald reprend ça, ce que dit le pape dans la joie de croire, la supériorité du temps par rapport à l'espace. Quoi. Il faut donner le temps au processus de se construire. Les personnes ont besoin d'un processus de vie, il faut donner le temps de le construire. Donc je ne pense pas que Jésus était pressé. Quoi. Quand il rencontrait les gens, il prenait le temps. Et puis, moi je crois que regardez aujourd'hui dans le rural ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire les chances qui peuvent déboucher, les lieux où les gens peuvent se rencontrer, ne pas laisser tomber les gens, les malades, des gens qui peuvent poser des questions. Il y a la question des migrants qui se pose, mais elle se pose très peu chez nous, mais elle pourra se poser. Et puis au fur et à mesure, quoi. Puis je crois que décider, moi je pense que l'audace missionnaire... C'est très important.
Merci beaucoup, Père Jean-Jacques Barrère. Donc, je rappelle pour finir que cet ouvrage, L'avenir des territoires ruraux des chrétiens s'interroge, c'est un ouvrage qui est disponible à la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes. C'est un ouvrage que vous avez co-écrit avec Gilles Grassineau, qui est, comme vous, prêtre du Prado. À bientôt.
Merci. Les visages de l'Église en Bigorre. Anne-Rose Jankovic.
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Suivez ce rendez-vous sur Radio Présence. Interview, reportage, retransmission en direct. Radio Présence vous fait vivre ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête.
Pyrénées, le Comminges, le Gers, le Béarn. Vous écoutez le Tout Info Local.
L'ensemble scolaire Sainte-Thérèse de Saint-Gaudens organise une journée porte ouverte le vendredi 24 mars de 17h à 20h. Pour nous en parler, je suis avec le chef de cet établissement et coordonnateur, Patrick Zanutini. Bonjour.
Bonjour.
Précisons que l'établissement Sainte-Thérèse, c'est une école primaire, un collège, un lycée général et un lycée professionnel hôtelier. Cette journée concerne la totalité de l'établissement ?
Oui, tout à fait. Nous ouvrons nos portes pour l'ensemble des familles, des élèves désireux de découvrir notre établissement et les diverses formations que nous proposons. Tout ça dans le but de pouvoir s'inscrire pour la prochaine rentrée scolaire.
À qui s'adresse cette journée ?
Aux élèves et à leurs familles.
Comment va se dérouler cette journée porte ouverte de ce vendredi 24 mars, je rappelle les horaires, de 17h à 20h ?
À chaque pôle d'accueil, nous serons là pour vous accueillir, répondre à vos questions, échanger avec vous sur le fonctionnement de notre établissement et bien entendu vous faire découvrir nos locaux.
Combien d'élèves avez-vous accueillis pour cette année actuelle, 2016-2017 ?
Cette année l'année scolaire, sur l'ensemble donc, de l'établissement, nous avons accueilli un peu plus de 950 élèves.
Y a-t-il des nouveautés pour la rentrée de septembre 2017?
Oui, tout à fait. Outre le nouveau bâtiment donc, que nous avons inauguré à cette nouvelle rentrée et qui, bien entendu, continuera d'accueillir les élèves, nous allons ouvrir une nouvelle formation en hôtellerie-restauration, une formation qui s'intitule « Mention complémentaire employé de bar », donc qui est ouverte aux personnes qui sont déjà titulaires d'un CAP ou d'un bac pro dans les métiers de l'hôtellerie-restauration et qui souhaitent poursuivre leur formation et se spécialiser dans les métiers du bar.
Vous nous parliez à l'instant d'un nouveau bâtiment qui a été inauguré en septembre dernier. Quelle est sa vocation?
Alors, c'est un nouveau bâtiment qui nous a permis d'accueillir dans de meilleures conditions 6 classes de primaire. Nous avons également une nouvelle salle de conférence et une cafétéria qui est réservée aux lycéens. Nous tenons à préciser que les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes et pour certains niveaux sont déjà bientôt closes. Donc si vous souhaitez inscrire votre enfant au sein de notre ensemble scolaire, nous vous prions de prendre rendez-vous avec Madame Mott, chef d'établissement pour le premier degré, donc ce qui concerne l'école, et moi-même, Monsieur Zanutini, pour le collège, le lycée général et le lycée professionnel hôtelier.
Je rappelle la journée porte ouverte, vendredi 24 mars, de 17h à 20h. Patrick Zanutini, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chef d'établissement, coordonnateur de l'ensemble scolaire Sainte-Thérèse à Saint-Gaudens. Merci.
Dans les Hautes-Pyrénées, le Comminges, le Gers, le Béarn. Vous écoutez le Tout Info Local. Tout Info Local.
Trouvez toute l'actualité de votre radio en temps réel sur le réseau social Facebook. Les invités de la semaine, les thèmes de vos émissions favorites, les événements religieux à ne pas manquer et bien d'autres informations. Laissez vos commentaires, discutez entre auditeurs et découvrez nos photos et nos vidéos. Connectez-vous sur Facebook et rejoignez la page de Radio Présence pour devenir un acteur de votre radio. Radio Présence, la radio connectée à l'essentiel.
Présence à Montrégeau, 94.1. Présence. Visage d'église en Béarn, Marie-Pascale Olivier.
Jean-Michel Grémaud, vous êtes président de la Banque alimentaire Béarn et Soule. Alors chaque année, on vous reçoit pour parler de la collecte nationale de la Banque alimentaire qui a lieu en novembre. Mais pour la quatrième année, vous organisez désormais une collecte supplémentaire au printemps et celle-ci aura lieu le samedi 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment le 1er avril qu'il y aura la collecte de la Banque alimentaire. Alors Jean-Michel Grémaud, pourquoi avoir ajouté une collecte à la collecte ?
Pour deux raisons. La première, c'est très matériel. Cela nous permet d'avoir, en une journée au printemps, entre 15 et 16 tonnes de produits alimentaires supplémentaires et des produits que nous n'avons que par ce biais. La deuxième raison, c'est que nous donnons une occasion à des jeunes de s'engager sur le plan du temps qu'ils donnent, sur le plan de leur disponibilité pendant un samedi où ils pourraient faire toute autre chose que d'être à la porte des magasins ou à la banque pour trier des produits alimentaires, c'est, je crois, une occasion citoyenne qui leur est proposée et qui est bien reçue.
Alors, c'est vrai que la banque alimentaire a quand même... Est-ce que vos besoins augmentent d'année en année, Jean-Michel Grémaud ?
Le nombre de personnes que nous aidons n'augmente pas sensiblement.
Oui.
Mais ce que nous aimerions faire, c'est pouvoir donner à chaque personne que nous aidons sur le plan alimentaire au moins l'équivalent d'un repas. Dans la culture des banques alimentaires, un repas, c'est 500 grammes. Mm-hmm. Actuellement, nous n'y arrivons pas.
D'accord.
Mais si, grâce à ces collectes supplémentaires ou ces ramas supplémentaires que nous pouvons faire dans les magasins, nous pouvons arriver à 500 grammes, bon, c'est gagné.
D'accord. On va rappeler le réseau de la Banque alimentaire Béarn et Soule, parce qu'en fait, oui, vous faites des collectes, il faut récolter vraiment beaucoup, beaucoup de tonnes, parce que vous avez un gros réseau. Vous avez combien d'associations partenaires ?
Alors actuellement, nous avons 37 associations partenaires en Béarn et Soule, qui assurent de leur côté 40 points de distribution.
Oui, donc c'est considérable, voilà. Parce qu'ils distribuent des repas tous les jours.
Alors, les associations ne distribuent pas directement des repas, mais elles distribuent des produits alimentaires à des familles qui en font le meilleur usage. Mmh. Les associations assurent également des ateliers cuisine pour redonner aux personnes l'envie de cuisiner, leur donner aussi quelques idées de recettes à partir des produits que donne la banque alimentaire. Et les associations aident par trimestre à peu près 6 700 personnes qui ne sont pas les mêmes d'un trimestre à l'autre nécessairement. En 2016, nous avons aidé grâce aux associations un peu plus de 18 000 personnes en Béarn-et-Soulles.
C'est un gros truc, c'est une grosse machine. C'est vrai qu'on va du coup rappeler un peu le fonctionnement de la banque alimentaire pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, parce que c'est vrai que d'une fois sur l'autre, les gens ne connaissent pas toujours la banque alimentaire. Ils doivent s'étonner pourquoi je demande l'association partenaire. En fait, on va expliquer que la banque alimentaire, elle ne donne pas de denrées directement aux gens.
Non, nous sommes, on va dire, un grossiste alimentaire qui récupérons des denrées auprès de la grande distribution. Ça, nous le faisons tous les matins. C'est à peu près 2 tonnes de produits frais que nous récupérons tous les matins. Nous récupérons des denrées également auprès d'industriels, des fromageries, des chocolateries, des conserveurs, des salaisonniers. Nous récupérons des produits alimentaires que nous donne soit la France, soit la communauté européenne. Nous récupérons également des produits alimentaires auprès d'autres banques. Il y a des échanges comme ça entre banques, parce que nous avons du fromage et que la banque du Gers a des melons, nous faisons des échanges.
D'accord. Voilà,
dans l'année, nous brassons à peu près 1 000 000 de tonnes de denrées alimentaires.
Oui, c'est assez considérable. Alors, c'est vrai que l'originalité de cette collecte, c'est donc ces jeunes. Alors, ces jeunes bénévoles, ils viennent d'où ? Ils prennent un samedi, il fait beau le 1er avril, effectivement. Ils vont être, on va les trouver où, d'ailleurs ?
On va les trouver dans une dizaine de magasins de l'agglo de Pau.
D'accord.
On ne va pas au-delà, pour ce samedi-là. Et ces jeunes viennent d'une vingtaine de collèges et de lycées. Il y a aussi, cette année, des jeunes de deux MJC, la MJC des Fleurs et la MJC Rive Gauche. Il y aura des étudiants de l'université, des scouts de France et des scouts d'Europe. Il y aura, je crois, aussi cette année, des jeunes de la communauté protestante adventiste de Lons.
D'accord. C'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui... Enfin, comment ça se passe pour...
C'est nous qui allons les chercher par leurs établissements scolaires.
D'accord.
Qui ensuite nous dirigent vers les aumôneries ou vers d'autres centres d'accueil de jeunes. Nous attendons cette année entre 300 et 400 jeunes pour ce samedi.
Ça marche bien, c'est un truc qui a bien pris, la collecte du printemps.
Tout à fait, ça leur plaît. En 2014, nous étions aperçus...
Et quand on fait appel aux jeunes, on est étonné des réponses, ils sont formidables.
Voilà, à condition quand même qu'il y ait quelques adultes qui marchent à leur côté.
D'accord, sinon c'est le bazar.
Voilà. Et puis je crois que l'exemple aussi d'adultes qui restent avec eux le samedi à la porte des magasins, qui les aident à ranger, à faire un tri, est aussi un exemple. Et qui viennent aussi à la banque pour trier.
Voilà. Donc il y a ceux qui seront à la sortie des magasins et il y a ceux qui seront au siège de la banque alimentaire pour trier et ranger.
De façon à ce que le lundi suivant, l'activité habituelle de la banque reprenne sans heurts. L'année dernière, nous avions récupéré un peu plus de 16 tonnes. Pour vos auditeurs, le 16 tonnes, c'est 32 000 repas.
C'est énorme.
Si on divise 32 000 repas par les 300 jeunes qui était présent l'année dernière, eh bien on peut dire que chaque jeune aura récolté l'équivalent de 104 repas. Ce n'est pas rien.
C'est pas rien. Ça vaut le coup de donner sa journée.
Ça vaut le coup de donner sa journée.
Alors justement, ceux qui nous écoutent, ils peuvent très bien vous appeler. Des jeunes qui nous écoutent, qui sont ni dans les aumôneries, ni aux scouts de France, ni aux scouts d'Europe, ils peuvent parfaitement venir. On laissera le contact en fin d'émission. Donc on s'engage à y être de quelle heure à quelle heure ? Toute la journée ?
Alors c'est toute la journée, mais l'engagement du jeune n'est pas nécessairement de 9h de l'ouverture du magasin, de 8h30 jusqu'à 20h le soir. Il peut donner... une heure ou deux heures de sa journée, où il peut venir à la banque, trier, ranger.
Alors, on va parler aussi, on va peut-être faire appel à bénévoles, parce que les bénévoles, la banque alimentaire, elle en a besoin toute l'année, c'est pas uniquement pour les collectes.
Oui, nous fonctionnons du 2 janvier au 31 décembre, et nous avons besoin de bénévoles qui soient au sol, comme disons, pour trier, réceptionner, mettre à disposition des associations les produits, soit pour être sur un véhicule, pour aller chercher dans les magasins les produits alimentaires qu'ils mettent à nos dispositions, soit pour d'autres missions un peu plus ponctuelles, pour aller chercher tel après-midi des pommes ou des kiwis dans les Landes, dans une coopérative fruitière. Voilà. Il peut y avoir aussi d'autres missions qui sont de s'occuper de véhicules ou qui sont de s'occuper de visites dans les associations. Voilà, les missions sont très
beaucoup
diverses.
Beaucoup de compétences, des compétences variées pour hommes et femmes. Il y a des femmes à la banque alimentaire.
Absolument.
C'est vrai que peut-être pas pour charrier les palettes, mais pour...
Si,
il y en a des costauds qui...
Les dames également déplacent des palettes avec des ouais. outils de transport, si vous
ah
voulez.
Ah oui, vous avez des outils.
Mais pour tous les bénévoles qui sont, on va dire, à 96% des retraités, l'activité à la banque alimentaire, c'est un second métier qui correspond assez peu souvent au métier que faisait la personne lorsqu'elle était dans l'activité.
D'accord.
Donc il y a des activités, des compétences qui s'acquièrent à la banque alimentaire.
Donc c'est formidable. Mais écoutez, merci Jean-Michel Grémond, on arrive au terme de l'émission. Donc n'oubliez pas, samedi 1er avril, vous pourrez donner pour la banque alimentaire à la sortie, j'imagine, de toutes les grandes surfaces paloises. S'il y a une dizaine de points, ça doit couvrir les grandes surfaces paloises. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, la banque alimentaire, ça vaut le coup d'aller voir parce que c'est assez impressionnant, est au 13 rue de l'Artisanat à Jurançon. Le numéro de téléphone, c'est 05 59 06 38 66 et 05 59 06 38 66. Et l'adresse mail, c'est bancalim, B-A-N-C-A-L-I-M, @wanadoo.fr. Il y a également un site internet que j'ai pas en tête, mais on va sur Google, on fait banque alimentaire et on trouve pour découvrir un peu plus au niveau national les banques alimentaires. Merci Jean-Michel Grémond.
Et merci à vous.
Présence. Visage d'église en Béarn, Marie-Pascale Olivier.
Radio Présence à Auch 89.6.
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Suivez ce rendez-vous sur Radio Présence. Interview, reportage, retransmission en direct. Radio Présence vous fait vivre ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Présence, le tout info local.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet agenda. Voici quelques rendez-vous à noter en Haute-Garonne. Conférence au GREP Comminges sur le thème « L'avenir de la ruralité en Midi-Pyrénées » avec Laurence Barthes, géographe, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès et au Centre universitaire Robert Naudy à Foix. Vous avez rendez-vous samedi 25 mars à 18h à la médiathèque de Saint-Gaudens. Dans le cadre de 1000 cœurs pour un regard, concert par le duo Chansons en balade, Véronique et Gilles, la chorale de Couré, le chœur de l'Estelas, les intermèdes seront assurés par Théo et Mathieu, samedi 25 mars à 21h en l'église de Chain-Dessus. L'auto du secours catholique, dimanche 26 mars à 14h30 à la salle socioculturelle de Salis du Salat. Vous pouvez retrouver cet agenda sur le site de Radio Présence, radioprésence.com, page Saint-Gaudens.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Bonjour Nathalie Alonso.
Bonjour madame.
Vous êtes directrice des écoles Saint-Joseph et Sainte-Jeanne d'Arc à Tarbes, en centre-ville de Tarbes. Vous venez aujourd'hui nous parler de ces deux écoles qui font partie de l'institution Jeanne d'Arc, parce que vous allez vivre ce week-end les portes ouvertes. Alors avant de parler précisément des portes ouvertes, ben, je vais vous laisser vous présenter ces deux écoles, et d'abord cette particularité peut-être d'avoir deux écoles sur deux sites différents mais d'une même institution.
Voilà. Eh bien écoutez, tout à fait, donc l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph comporte donc deux écoles primaires, donc avec maternelle et élémentaire. Donc une école qui est 17 rue Massé et une autre école qui est 10 rue de Constrade, donc à Tarbes, à côté du 1er régiment des hussards parachutistes. Voilà, donc moi je suis la directrice, donc j'ai une décharge totale et donc je suis chef d'établissement du premier degré. Je m'occupe donc de ces deux unités. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'en tout, il y a 175 élèves répartis en 8 classes.
Alors, sur Saint-Joseph, effectivement, après, sur Jeanne d'Arc, j'ai un total de 300 élèves.
Voilà.
Donc, au total, ça fait une structure de 475 élèves. Voilà.
Voilà. Donc, alors, quels sont les points forts de cette école? D'abord, est-ce que cette division sur deux sites géographiques est un des points forts que vous pouvez présenter aux parents? Parce que présenter comme ça, on pourrait dire que eh bien, c'est plutôt un handicap, peut-être pour vous et pour les enseignants, mais peut-être que pour les parents, c'est plus simple.
Alors, pour nous, enseignants, c'est vrai que nous travaillons ensemble. Le projet éducatif est le même. Après moi, en tant que directrice, j'insuffle exactement la même chose dans l'équipe et sur les deux écoles, hein, parce que bon, nous y tenons. Après, c'est vrai que Jeanne d'Arc, nous avons davantage des familles qui ont leurs enfants de la maternelle jusqu'à la terminale, donc ils bénéficient vraiment de la structure entière de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Saint-Joseph est une école donc de 8 classes, donc là qui va de la maternelle jusqu'au CM2. C'est une structure qui est plus familiale, plus petite, une unité plus petite. Et les familles parfois la choisissent pour cette chose-là. Voilà.
Donc vous parlez du côté éducatif. Alors bien sûr, comme dans toutes les écoles, il y a un projet pédagogique. Et puis il y a, parce que vous êtes une école catholique, un projet pastoral. Présentez-nous un petit peu ces deux projets-là, pédagogique et pastoral. Comment eh bien, vous les assemblez? Comment vous créez une unité entre ces projets-là?
Bon, alors notre projet pédagogique, évidemment, est un projet, il y a le savoir-faire pédagogique et savoir-faire éducatif, qui est évidemment à la lumière de l'Évangile, hein. Nous vivons au quotidien avec ces valeurs-là. Et puis, dans nos écoles, nous proposons la foi dans le respect des convictions de chacun. Donc, il y a des célébrations à chaque temps liturgique, des temps forts. Nous avons aussi des engagements caritatifs. Et puis, pour les plus petits, de l'éveil à la foi jusqu'au CE1. Ensuite, le catéchisme qui est proposé en CE2, la culture religieuse aussi. Voilà. Et puis aussi la possibilité d'un accompagnement au baptême à partir du CE2. Voilà.
Alors, vous êtes présent en plein centre-ville de Tarbes, ce qui permet certainement aux enseignants de construire également des projets culturels, d'être aussi dans le monde.
Voilà, exactement. Donc, nous faisons découvrir, alors grâce aux portes ouvertes d'ailleurs, nous allons faire découvrir aux parents nos partenariats, hein, puisque nous avons un partenariat avec le conservatoire Henri Duparc de Tarbes, le comité de tennis aussi, Speakeasy pour l'anglais, le théâtre, pour les ouvertures culturelles. Voilà, donc c'est vrai que nous essayons un maximum d'attirer les enfants vers la culture, c'est très important.
Donc c'est-à-dire au travers de sorties régulières pour
de
tous les élèves
qui donnent, voilà, de projets variés qui donnent du sens aux apprentissages, toujours en lien avec la pédagogie. Voilà.
Dans ces orientations pastorales, Monseigneur Bouvet invite les parents à être aussi au service, à aider les écoles catholiques à pouvoir accomplir leur mission. Comment vous, eh bien, vous accueillez ces parents pour que, ben, pour qu'ils soient également des moteurs dans tout ce projet d'école? Oui, comment est-ce que vous pouvez les impliquer?
Alors nous, déjà, c'est vrai que nous tenons à ce que les familles soient coopératrices, hein, et coéducatrices. Voilà. Donc c'est vrai que l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph, pardon, veut mettre à leur service, hein, dans un souci de dialogue constant, un accueil de la famille. Ça, c'est très important, hein, pour vraiment être au plus près d'un accompagnement du jeune.
Ça, voilà. En fait, donc ça, c'est votre rôle de directrice, d'être disponible pour les parents.
L'équipe. Et de l'équipe, voilà, aussi.
Donc, de tous les enseignants.
L'équipe, oui, voilà, de la communauté éducative qui est vraiment, qui est à l'écoute, qui est très dynamique. Et parce que la préoccupation première demeure l'épanouissement personnel de chaque élève. Hein, donc c'est vrai que ce souci de les aider à bien grandir est sans arrêt dans notre esprit.
Voilà. Pour vous, Nathalie Alonso, c'est quoi justement la clé de ça? Parce que être attentif à 300 élèves et puis aussi certainement aux enseignants, parce que c'est un métier qui peut être difficile par moment. Comment on y arrive à ça? Comment on arrive à être bienveillant et attentif à chacun, à vraiment s'assurer que chaque personne puisse s'épanouir et avancer?
Mais je pense que c'est déjà en ayant plaisir le matin à venir, parce que j'aime les enfants, déjà, c'est le premier point. Je crois que c'est un métier qui me passionne. Et voilà, il n'y a pas de difficultés, ça se fait, on a des problèmes à gérer, mais on a tellement d'enfants qui nous rapportent après d'éléments intéressants que voilà, c'est un vrai plaisir de venir partager ce temps de travail avec l'équipe. Voilà. Et je pense que du coup, il y a un climat serein qui est dans l'école, et tout le monde partage cela.
Et les enfants le ressentent.
Voilà.
Alors, ces portes ouvertes ont lieu ce samedi.
Voilà,
ce samedi 25 mars.
Tout à fait, le 25 mars, de 9h à 12h30.
Voilà, alors tout le monde peut venir, toutes les familles qui sont, nous invitons
tous les parents qui cherchent à scolariser leur enfant à venir nous rencontrer pour mieux nous connaître.
Et là, Nathalie,
il reste encore des places d'inscription, donc.
voilà. Vous pouvez accueillir combien d'élèves? Vous en accueillez 300 actuellement? Vous pouvez en accueillir jusqu'à combien?
Alors 300, c'est sur Jeanne d'Arc, hein, voilà, sur Saint-Joseph, on est un petit peu moins puisque s'il y a moins de places, voilà.
D'accord. Donc vous et au total, vous pouvez accueillir jusqu'à combien d'élèves?
Oh ben on peut aller jusqu'à 200, voilà.
Il reste des places. Lors de ces portes ouvertes donc samedi, vous Nathalie Alonso en tant que directrice, bien sûr, on imagine que vous allez être mobilisée. Les parents peuvent rencontrer les enseignants également?
Oui, tout à fait, voilà, chaque enseignant va animer dans sa classe. Alors il y a des ateliers qui sont prévus justement pour les enfants qui seront là, mais après ils seront là avant tout pour expliquer leur projet, leur pédagogie, répondre aux questions des parents, voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants ont des méthodes innovantes, donc voilà, il faut faire connaître aussi ce qui marche et ce qui fonctionne bien. Parce que c'est vrai que sur Saint-Joseph, nous avons beaucoup de bouche à oreille et des parents qui sont contents des résultats scolaires de leurs enfants. Voilà, des enfants qui parfois ont eu du mal et qui ont été accompagnés. C'est des enfants qui ont eu des fois eu des difficultés. Puis en étant accompagnés par une équipe vraiment professionnelle, eh bien, il y a eu des résultats.
Voilà. Et souvent, la dimension familiale favorise aussi ce travail-là d'accompagnement.
Oui,
petite question pour les familles qui seraient intéressées pour inscrire leurs enfants dans votre école, mais qui ne seraient pas là samedi 25 mars. Est-ce que vous êtes disponible le reste de l'année, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en juin? Est-ce qu'on peut déranger une directrice d'école n'importe quand, en fait?
Alors, moi, je suis aidée, je ne suis pas toute seule. Hein. Voilà, j'ai une équipe qui est formidable aussi autour de moi. Et voilà, et j'ai une secrétaire Céline qui pourra les accueillir au téléphone. Je peux donner le numéro?
Bien sûr.
Aussi, au 05 62 93 34 69. Voilà. Et Céline est là à Saint-Joseph tous les matins. Et l'après-midi, elle est sur Jeanne d'Arc. Voilà.
Voilà, donc parce que souvent les parents sont un peu inquiets aussi, peut-être plus que les enfants dans certains cas. Donc voilà, ils peuvent vous joindre. Je rappelle le numéro 05 62 93 34 69, c'est bien cela?
Voilà, tout à fait.
Voilà, et donc vous êtes disponible et disposé pour répondre
à toutes leurs
questions. Bien, on vous souhaite de belles portes ouvertes
en ce
25 mars, jour de l'Annonciation, que la Sainte Vierge vous accompagne dans cette mission. Nathalie Alonso.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Vendredi à 16h15, messe d'ouverture à la grotte. Samedi à 14h, marche diocésaine au départ d'Arcisac-Aisangle. À 20h30, procession mariale. Dimanche, dès 9h30, rendez-vous pour les enfants à l'église Sainte-Bernadette. À 11h, rassemblement à la porte Saint-Michel. 11h30, Angélus à la grotte. À 13h15, chapelet à la grotte. À 13h30, présentation des orientations diocésaines par Monseigneur Brouvet à la salle Notre-Dame. Et à 15h, messe à la basilique Saint-Pie-X. Renseignements au 05 62 44 28 28 ou sur catholique65.fr. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Présence matin.
Présence matin.
Du lundi au vendredi, Radio Présence accompagne votre début de journée. Informations, invités en direct, temps de prière, culture, météo, débats et jeux. Entre rigueur et bonne humeur, Jean-Pierre Allot et Quentin Espitalier vous proposent un réveil spirituel et positif. Présence matin, c'est en direct du lundi au vendredi de 6h45 à 9h.
Le Tout Info Local, c'est de l'actualité de proximité, des interviews, des reportages sur la Bigorre, le Gers, le Comminges et le Béarn, et c'est du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 18h.
Bon après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Avant de faire un point sur l'actualité locale, un point météo. Cet après-midi, nuages légers et éclaircies se partagent le ciel avec une baisse des températures. On ne va pas dépasser les 8 à 9 degrés à Tarbes-et-Lourdes, de 7 degrés à Saint-Gaudens, 9 degrés à Auch. Demain vendredi, des pluies éparses se produiront, ciel qui restera dans l'ensemble maussade, 12 à 13 degrés pour les températures maximales. Mot du week-end, samedi, pluie le matin, puis éclaircie dans l'après-midi. Et pour dimanche, alternance de pluie et d'éclaircie. Voilà les dernières prévisions de Météo France. Allez, très bel après-midi avec le journal local et Luc Vidal-Giraud.
Radio Présence, le tout info local.
L'éducation nationale vient de publier son palmarès 2016 des lycées. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est le lycée Peyramale Saint-Joseph de Lourdes qui arrive en première position avec 98% de réussite au bac. Viennent ensuite les lycées René Billère d'Argelès-Gazost, Notre-Dame de Garaison, La Serre de Sarsan à Lourdes, Théophile Gauthier à Tarbes. On trouve ensuite le lycée Jeanne d'Arc de Tarbes en 6e position devant Prado-la-Cède. Dans les Pyrénées-Atlantiques et plus spécialement en Béarn et en Soule, c'est le lycée Bartou de Pau qui pointe en tête. Il devance les lycées Saint-Cric, Saint-Jean-Perse, tous les deux à Pau. Viennent ensuite le lycée Jacques Monod à Lescar, le lycée Gaston Phébus à Orthez et le lycée Paul Rey à Naye. C'est le 13 avril prochain que le conseil communautaire de la grande agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées votera son budget. On sait d'ores et déjà qu'en matière de fiscalité, toutes les communes de l'agglo devront s'aligner sur le taux moyen intercommunal. Certaines d'entre elles vont donc y gagner, et celles dont le taux était supérieur, d'autres y perdront, celles dont le taux était inférieur. On fête aujourd'hui un anniversaire, celui des 50 ans de la création du Parc National des Pyrénées. C'est en effet le 23 mars 1967 que le parc fut créé par décret. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet anniversaire dans une émission spéciale dans quelques semaines en direct du siège du Parc National des Pyrénées, Villafoulde, à Tarbes. C'est aujourd'hui que le maire de Toulouse lance une pétition en ligne à l'adresse des candidats à la présidentielle pour défendre l'arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse à Matabiau. Cette pétition a pour vocation d'interpeller les candidats pour qu'ils affirment leur volonté de concrétiser cette ligne à grande vitesse dans le respect du calendrier et qu'ils s'engagent surtout sur son financement. L'arrivée de cette LGV à Toulouse était initialement programmée pour 2024, mais elle ne semble plus faire partie des priorités et de la SNCF et de l'État. La pétition est accessible sur le site www.tgv-toulouse.fr, www.tgv-toulouse.fr. La ministre du Travail Myriam El Khomri et celui de la ville Patrick Kanner sont dans la ville rose aujourd'hui. Ils doivent inaugurer l'établissement régional pour l'insertion dans l'emploi à l'EPID. Cet établissement s'adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de l'emploi et âgés de 18 à 25 ans. En intégrant un de ces centres, les jeunes pourront se concentrer sur leur projet d'insertion sociale et professionnelle, et ce pour une durée d'environ 8 mois en internat. La première promotion comptera 60 jeunes. À terme, le centre disposera de 50 places. À la suite des chutes de neige de la nuit dernière, les équipements étaient obligatoires ce matin pour rejoindre les domaines de Lamongie et de Saint-Lary, mais également le col d'Aspin dans le 64. Les chaînes sont aussi indispensables pour accéder à la Pierre Saint-Martin et au col du Pourtalet.
Présence. Présence, le tout info local.
Réécoutez cette émission sur internet www.radioprésence.com, page Lourdes.